France Culture se fait l'écho du forum Le Monde Le Mans qui s'est tenu au Mans le 13 novembre dernier sur le thème « Où est le pouvoir ?». Aujourd'hui, troisième émission, le lieu du pouvoir entre l'officiel et l'officieux, avec Luc Boltanski, sociologue. Suivi de « Oubliez le pouvoir » avec Nathalie Hennick, sociologue. Une émission présentée par Jean Bienbaume.
Luc Boltanski, qui est un sociologue de renommée internationale, il a une très très belle capacité à observer les autres, à se remettre également lui-même en question. Si vous me permettez, je vous présenterai, comme je l'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, comme une sorte de détective sans frontières, hein, qui remet sans cesse en question les limites des disciplines, qui casse un peu comme ça les carcans établis ou les frontières arbitraires. Un détective de terrain qui aime bien poser sa loupe sur des objets extrêmement divers. Luc Boltanski a travaillé sur l'amour, sur les cafétérias d'entreprise, sur les conseils de classe. Il y a encore beaucoup de lycéens aujourd'hui parmi nous, sur l'action humanitaire, et aussi, on y vient, sur le pouvoir, avec un livre « Énigmes et complots » qui est paru chez Gallimard il y a 3 ans, dans la belle collection NRF Essai, et où Luc Boltanski met ses pas dans ceux de Sherlock Holmes, littéralement, puisque Sherlock Holmes est un personnage du livre, pour sonder les failles de nos démocraties. Ça en fait également un détective engagé. Luc Boltanski prend souvent la plume pour s'engager dans l'espace public. D'ailleurs, il nous avait fait l'honneur de tenir une chronique dans les colonnes du Monde des Livres pendant 1 an, avec des textes très sensibles et très, très forts, vraiment, dont on était extrêmement heureux, puisque le fil rouge, finalement, de son questionnement, non seulement théorique, mais aussi politique, est la question de la critique. Hein, le thème de la critique, du sens critique, de l'esprit critique, de la critique tout court, hein, de la critique est le titre d'un de vos livres les plus importants. La critique comme sens moral, comme sens commun, qui est la condition de toute démocratie digne de ce nom, dit Luc Boltanski. Voilà, un détective, un fin limier, qui a été longtemps à une époque proche de Bourdieu, mais vous en êtes éloigné, vous avez construit votre propre agence de détective pour montrer qu'il n'y a pas que la domination dans la société, qu'il y a aussi une capacité d'action propre aux acteurs, aux individus, et qu'il faut la leur reconnaître. Voilà, dans Énigmes et complots, pour citer une dernière fois ce livre, Luc Boltanski, vous affirmez que la sociologie n'est pas un récit d'espionnage, que c'est pas non plus un polar, mais qu'elle permet quand même d'éclairer quelques énigmes et quelques questions, et parmi ces questions, il y a la question qui nous occupe pendant ces 3 jours. Où est le pouvoir ? Merci beaucoup d'être
Merci
parmi nous.
Merci Jean, dirais-je, en restant dans les prénoms comme ce matin, je suis très heureux d'être là.
Ah, dans le micro, faites attention. Bien.
En ouvrant l'autre soir, pour des raisons sans rapport avec la préparation de cet exposé, le second volume de l'ouvrage que Raymond Aron a consacré à Clausewitz, « Penser la guerre », je suis tombé sur la phrase suivante. Quand je fais ça, ça veut dire guillemets. En simplifiant, on peut dire qu'après la défaite française de 1940, les décisions stratégiques au deux sens large et étroit du mot stratégie furent prises par 4 acteurs individuels ou collectifs, dans le Troisième Reich par Hitler et par les généraux, en URSS par Staline avant tout, aux États-Unis par Roosevelt et ses conseillers militaires, en Grande-Bretagne par Churchill et le cabinet. Voici une phrase qui, me direz-vous, ne nous apprend rien. Elle vaut néanmoins la peine de s'y arrêter. Comment un fou criminel, un paranoïaque notoire, un alcoolique mondain et l'héritier sympathique d'une richissime famille devenue politicien professionnel ont-ils pu exercer un pouvoir qui a mobilisé la presque totalité de la planète et conduire une guerre ayant entraîné la mort de quelques dizaines de millions de personnes ? La phrase de Raymond Aron met l'accent sur ce que l'on pourrait appeler le mystère du pouvoir, qui est d'être à la fois individuel et collectif, personnel et impersonnel, incarné et structural. Hitler, Staline, Churchill et Roosevelt ne se sont pas affrontés en personne comme l'auraient fait des lutteurs sur un ring. Chacun d'entre eux a mobilisé des forces considérables et un nombre considérable d'autres êtres humains qu'ils sont parvenus à faire agir comme s'il s'agissait d'un seul homme. Et l'on ne peut pas ne pas penser à la célèbre gravure qui orne la première page de la première édition en 1651 du Léviathan de Thomas Hobbes, sur laquelle figure un souverain tenant d'une main un glaive, symbole de la force guerrière, et de l'autre une crosse, symbole de l'autorité morale, et dont le corps est composé d'une multitude de créatures minuscules qui, si l'on change d'échelle, se révèlent avoir forme humaine. Il s'agit de tous ceux qui se sont délestés de leur liberté et aussi d'ailleurs de leur égalité, car selon Hobbes, les hommes sont égaux par nature, en se livrant aux mains d'un maître supposé garantir leur sécurité. Je suivrai ici Raymond Aron en considérant que le pouvoir est toujours détenu par une personne et qu'il est lié à la possibilité non seulement d'avoir une volonté et de prendre des décisions, mais aussi de les faire exécuter par d'autres. Le pouvoir est donc ainsi en premier lieu un pouvoir de faire faire, celui de faire faire par d'autres ce que l'on serait incapable de faire par soi-même et tout seul, et par conséquent de mobiliser d'autres personnes et de coordonner leurs actions. Donc aussi le pouvoir d'obtenir que d'autres, des autres, qu'ils vous suivent. En témoigne par exemple, à contrario, le saisissant tableau qu'Antoine de Saint-Exupéry fait de la débâcle dans Pilote de guerre, publié en 1942, quand il décrit ces ministres français qui donnent avec autorité des ordres que personne n'exécute, parce qu'ils les transmettent par l'intermédiaire de téléphones qui ne fonctionnent plus, à des personnes qui de toute façon ne sont plus au bout du fil. C'est aussi le pouvoir de juger, c'est-à-dire celui de clore des épreuves, et particulièrement des épreuves de sélection, en faisant de façon incontestable ou difficile à contester le partage entre ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué, comme on le voit par exemple dans le cas des épreuves scolaires, voire entre ceux qui vivront et ceux qui ne vivront plus, comme c'est encore le cas dans les pays où la peine de mort est toujours en vigueur. Un partage qui engage souvent physiquement ou sur un plan symbolique la vie entière de ceux qui se sont soumis à ce partage ou qui ont été soumis. C'est enfin le pouvoir d'agencer des situations, et particulièrement des situations d'échange, des transactions, en sorte que l'issue de ces transactions soit qualifiée de valide, ce qui constitue l'un des fondements du pouvoir économique. Bien sûr, celui qui exerce le pouvoir, c'est-à-dire celui qui mobilise une force qu'il ne possède pas lui-même et qui le dépasse, n'est pas seul. Il se réclame le plus souvent d'une autorité qui lui délègue ce pouvoir et qui, si l'on suit les chaînes d'autorisation, remonte vers un être composé qui n'est pas une personne humaine dotée d'un corps propre, mais une institution. Or, l'autorité dont disposent les institutions, ces êtres sans corps, repose elle-même sur des récits d'origine dans lesquels interviennent des êtres fictifs, par exemple les ancêtres, ou Dieu, comme sous l'Ancien Régime, ou encore le peuple souverain dans les régimes démocratiques. Les récits sont la maison du pouvoir. Et bien sûr, le détenteur d'un pouvoir est lui-même pris dans un réseau de contraintes dont il ne peut pas ne pas tenir compte s'il veut conserver son pouvoir, contraintes qui sont généralement représentées par d'autres personnes en lesquelles s'incarnent d'autres forces, qu'ils agissent de ses adversaires ou, plus contraignant encore, de ses subordonnés et de ses alliés. Mais néanmoins, les décisions finales, celles qui s'inscrivent dans des stratégies et les orientent dans un sens ou dans un autre, ont toujours quelque chose de personnel. C'est donc, à juste titre, que s'agissant de juger une action collective tenue pour fautive ou criminelle, on en fasse porter la responsabilité sur ses dirigeants, même lorsque, souvent d'ailleurs à juste titre, ces derniers cherchent à s'y soustraire en relativisant a posteriori leur pouvoir et en mettant en avant ce qui en a constitué l'envers, c'est-à-dire ce qu'ils décrivent comme ayant été en fait leur impuissance. Ce que je viens d'esquisser de façon schématique ne concerne néanmoins surtout qu'un type de pouvoir, le pouvoir que l'on dit « officiel », celui qui se manifeste par des injonctions, des directives, des ordres de toutes sortes. Or, ce pouvoir dit officiel est souvent contesté, voire discrédité, en considérant qu'il s'agit d'un pouvoir illusoire, fictif, de surface ou de façade, qui dissimule une autre forme de pouvoir invisible ou caché, que l'on peut appeler le pouvoir officieux. Dans le cas du pouvoir officiel, celui qui l'exerce dispose d'une force, susceptible d'aller jusqu'à la violence, qui prend appui sur des dispositifs hiérarchiques et sur des textes juridiques. L'étendue et les contours de ce pouvoir sont à ce titre supposés connus de tous. À l'inverse, dans le cas du pouvoir officieux, celui dont on suspecte la puissance est censé agir sur un autre mode, plus obscur, auquel il est fait souvent référence dans l'idiome vague de l'influence, du charisme, de l'ascendant ou de la manipulation mentale. Plutôt que par des ordres explicites, il exerce sa puissance par des pressions, des incitations, par des gestes qui suscitent l'espoir de récompense ou la peur de déplaire, voire même en jouant sur la fidélité et sur l'amour, de façon en quelque sorte à ce que ceux qui sont tombés sous son emprise puissent agir comme s'ils ne faisaient rien d'autre que d'obéir à leurs propres désirs, comme s'ils étaient autonomes, c'est-à-dire sur le mode de la mauvaise foi. C'est de cette façon que le détenteur d'un pouvoir officieux est censé lui aussi multiplier sa force en concentrant la force d'autres personnes avec lesquelles il entretient des liens tacites, voire secrets. Enfin, tandis que le pouvoir officiel s'affirme et s'autorise de récits officiels, le pouvoir officieux, dans la mesure où il se dissimule, doit être démasqué en forgeant d'autres récits qui prétendent en dévoiler le fondement. C'est presque toujours par référence à ce pouvoir officieux, qui peut d'ailleurs se dissimuler dans les plis d'un pouvoir officiel, que la sociologie parle de domination, une notion qui enferme l'idée d'intériorisation. Elle suggère par là que le pouvoir ne s'exerce pas seulement de façon hiérarchique et statutaire, ni même par le biais de mécanismes économiques patents, mais qu'il pénètre les esprits, les cœurs et les corps, les manières de percevoir, d'agir et de réagir, et surtout de désirer, d'aimer ou de haïr. C'est largement à l'articulation de ces deux formes de pouvoir, le pouvoir officiel et le pouvoir officieux, que la question de savoir où se trouve réellement le pouvoir vient s'inscrire. Cette question a troublé dès l'origine les sciences sociales et leur a, en quelque sorte, donné une raison d'être. Si seul était réel le pouvoir officiel dans sa détermination juridique, la question du pouvoir ne relèverait finalement que des sciences administratives. On peut suivre ici Michel Foucault, quand il qualifie la façon d'envisager le pouvoir qui s'est imposé en Occident, avec le déclin du féodalisme et au profit d'un État monarchique au sein duquel la bourgeoisie a pu se former, comme relevant d'une conception juridique du pouvoir. Mais à l'abri de ce pouvoir juridique, se développait en même temps, dit Foucault, une autre forme de pouvoir qui, par le truchement d'un côté des techniques de disciplinarisation et de l'autre, des dispositifs de régulation des populations pénétraient au plus profond des esprits et des corps, c'est-à-dire de la vie tout entière. C'est donc bien dans la mesure où l'on peut penser que le pouvoir officiel n'est pas le tout du pouvoir que cette question, celle du pouvoir, qui est peut-être au cœur des sciences sociales, a pu faire l'objet d'analyses se donnant pour objet de tracer les linéaments d'une pluralité de formes de liens dans lesquels les personnes se trouvent enserrées. Cela que l'on parle de classe sociale et de solidarité de classe, de réseau, de milieu, de cercle, de mafia ou de secte, d'associations reposant sur un intérêt économique commun, voire de sympathie ethnique ou religieuse, autant de façons qu'ont les êtres humains de se rendre dépendants les uns des autres, auxquels on suppose un mode d'existence qui est loin d'être toujours officiel. Mais cette distinction entre le pouvoir officiel et le pouvoir officieux n'occupe peut-être les sciences sociales que parce qu'elles jouent un rôle central dans la façon dont les personnes que la sociologie appelle ordinaires, chacun d'entre nous en tant qu'il est lié au monde par des attaches spécifiques, cherchent à comprendre les déterminations auxquelles elles imputent l'orientation de leur destin et les contraintes auxquelles elles se heurtent. C'est-à-dire en nombre de cas quand les personnes considèrent qu'elles font l'objet d'injustices parce qu'elles subissent les effets d'un pouvoir sur lesquels elles n'ont pas prise. Ayant travaillé autrefois sur un corpus de lettres envoyées au journal Le Monde dans lequel des personnes se plaignaient d'être victimes d'injustices et réclamer réparation, lettres souvent accompagnées de volumineux dossiers destinés à faire preuve, j'ai vu se dessiner dans un grand nombre de cas une figure de ce type. Ces dénonciations d'injustice étaient accompagnées d'accusations qui dénonçaient l'existence de liens secrets entre d'un côté des groupes occultes et de l'autre le détenteur d'une autorité officielle ayant pris une décision considérée comme injuste, qu'il s'agisse par exemple d'un juge, d'un médecin, d'un professeur, d'un préfet, d'un maire, etc. Dans ce cas de figure, le personnage officiel supposé agir pour le bien public dissimule un autre actant qui, lui, agit en fait en faveur d'intérêts cachés. Il est alors, en quelque sorte, distribué entre deux entités différentes, cela un peu à la façon dont Ernst Kantorowicz a analysé la figure célèbre des deux corps du roi. Il est facile d'identifier cette figure en la rattachant à ce que l'on appelle de plus en plus souvent, et pour, à juste titre, les discréditer, les théories du complot. Ces dernières ont joué indéniablement un rôle catastrophique dans l'histoire du XXe siècle, notamment en étant le support d'un antisémitisme, explicite ou virulent, ou diffus et tacitement accepté, qui s'est répandu dans à peu près tous les pays d'Europe, et en l'absence duquel le génocide nazi n'aurait simplement pas pu avoir lieu. Ce fait historique doit nous rendre en effet très circonspects à l'égard des théories du complot et de leurs possibles retombées. Mais dénoncer les théories du complot est peut-être insuffisant, car cette indignation laisse de côté la question de savoir pourquoi les dérives de ce type sont si fréquentes. Je mets au défi chacun de nous, ici, de n'avoir pas au moins une fois dans sa vie mis sur le compte de sympathie ou d'antipathie cachée, liée à des attaches secrètes, une prise de décision le concernant, qui lui a fait tort et qu'il juge injuste. Cette figure qui dévoile sous un pouvoir officiel se prétendant juste et bienfaisant un pouvoir officieux et malfaisant apparaît chaque fois que le cours des choses ne semble plus explicable en tenant compte seulement des relations de pouvoir reconnues comme valides et des dispositifs sur lesquels elles reposent. Ou si l'on veut, lorsqu'un acteur ou un groupe souffre de ce que l'on pourrait appeler une masse manquante de causalité. Envahis par cette inquiétude, les acteurs ne parviennent plus à interpréter ce qui leur arrive et à comprendre pourquoi une condition qu'ils vivent comme inextricable et injuste doit être interminablement endurée. C'est la raison pour laquelle le dévoilement des pouvoirs occultes se développe particulièrement au cours des crises sociales et politiques et aussi durant les périodes où les inégalités s'exacerbent et où elles se révèlent, plus encore qu'à l'accoutumée, dans ce qu'elles ont d'injustifiable et d'arbitraire. Cela surtout quand les instruments critiques font défaut et quand les dispositifs collectifs de protestation sont défaillants ou paraissent ne plus avoir prise sur la réalité. Pour comprendre la prégnance du genre d'explication et de soupçon qui prend des formes extrêmes dans les théories du complot, il faut analyser un peu plus avant les relations entre le pouvoir officiel et le pouvoir officieux. Le pouvoir officiel repose sur une fiction sans laquelle la vie sociale serait sans doute impossible. Elle est, pour le dire vite, la suivante. Chaque personne individuelle ayant un corps, un psychisme, une libido, des attaches sociales et aussi par conséquent des intérêts qui lui sont propres, ou comme dit le jargon de la sociologie étant situé, aucun individu ne détient par soi une autorité qui lui permettrait de dire aux autres, à tous les autres, particulièrement en situation d'incertitude, de quoi est faite la réalité qui les environne et comment ils doivent s'y conduire. Chacun ne peut que proposer des interprétations ou, comme on le dit couramment, donner son point de vue. C'est la raison pour laquelle la tâche consistant à dire ce qu'il en est de ce qui est et à le dire avec la prétention de parler pour tous, se trouve déléguée à ces êtres sans corps que l'on appelle des institutions et que l'on place en surplomb par rapport aux individus empiriques. Mais ces institutions, supposées responsables du bien commun, n'ayant pas de corps, ne peuvent pas manifester leur volonté sinon par le truchement de responsables et de porte-parole qui sont des personnes corporelles comme vous et moi, c'est-à-dire des êtres situés et qui ont à ce titre nécessairement aussi d'autres attaches et d'autres intérêts que ceux qui les lient aux institutions auxquelles ils doivent leur autorité. Les êtres humains en société occupent toujours une pluralité de positions dans des espaces différents, et du fait de cette multipositionnalité, ne sont jamais totalement réductibles à la position qui, dans un certain contexte, leur confère du pouvoir. Ce fait quasiment indépassable est par exemple au principe de ce que le droit appelle les conflits d'intérêts, qui se dévoilent lorsqu'il est avéré que le détenteur d'un mandat officiel tourné vers l'intérêt général occupe aussi, par ailleurs, dit-il, une position dans un autre espace par rapport à laquelle il a aussi des intérêts bien particuliers, en sorte qu'il peut être soupçonné de donner la préférence à ces derniers au détriment de l'intérêt général dont il devrait être le serviteur. Mais l'existence d'une zone grise entre pouvoir officiel et pouvoir officieux tient aussi peut-être à d'autres raisons plus profondes qui seraient inhérentes aux conditions même de l'exercice du pouvoir dans des situations concrètes et particulièrement dans des situations marquées par l'incertitude et par l'urgence. On peut schématiser le problème de la façon suivante. Deux propriétés principales du pouvoir officiel sont d'une part d'obéir à des règles et à des procédures préétablies et d'autre part d'avoir un caractère public. Le fait d'obéir à des règles et à des procédures préétablies donne au pouvoir officiel une grande légitimité, mais aussi lui lie les mains. Il interdit certaines actions ou en limite la pratique et très généralement, il entrave et retarde l'exercice du pouvoir. C'est la raison pour laquelle, dans la pratique du pouvoir politique, le pouvoir officiel est très généralement associé à un pouvoir officieux chargé des basses œuvres, dont les services secrets, dont le rôle n'a fait qu'augmenter, constitue la forme la plus acceptable. La raison d'État se tient ainsi au point d'indistinction entre l'officiel et l'officieux. D'autre part, le pouvoir officiel est censé, on l'a vu, s'exercer publiquement et, comme on le répète aujourd'hui à foison, dans la transparence. Or, le fait d'être public rend très difficile le retour en arrière une fois une position adoptée ou une décision prise. Un pouvoir officiel qui revient sur des décisions qu'il a publiquement adoptées est facilement discrédité ou ridiculisé. L'exigence du secret n'est jamais très loin du champ des relations politiques, surtout lorsqu'elles engagent les rapports de force entre États. Cela se voit au mieux dans le cas des négociations en situation de crise. Dans ce genre de situation, la négociation, d'une part, doit tolérer le flou de façon à rendre possible les retours en arrière, et d'autre part, doit tenir compte, dans l'évaluation de la situation, d'éléments qui sont loin d'avoir un caractère officiel et qui tiennent, par exemple, à la manière dont sont interprétées les intentions, les contraintes, ou même les manières d'être des dirigeants du camp opposé. Rien n'est peut-être aussi éclairant sur ce rapport que ne le sont les Kennedy Tapes, un document publié en 1997. Il s'agit des enregistrements sur magnétophone des discussions qui, du 16 au 29 octobre 1962, ont été menées au sein du comité réuni autour du président Kennedy lors de la crise des fusées de Cuba, l'ex-com, auquel participaient les principaux collaborateurs et conseillers du président. On distingue généralement en sociologie deux grandes orientations. D'une part, la microsociologie qui s'intéresse aux relations interpersonnelles dans des situations de dimension restreinte, et d'autre part, la macrosociologie qui, surtout en ayant recours à la statistique, étudie les relations structurelles entre grandes entités collectives. Or, l'intérêt de l'enregistrement des discussions menées au sein de ce comité est de nous faire pénétrer dans une micro-situation dont les issues sont pourtant largement d'ordre macrosociologique, puisque l'enjeu en est la guerre nucléaire, c'est-à-dire l'avenir du monde, ou plutôt la question de savoir s'il aura ou non un avenir. Ce qui frappe à la lecture des enregistrements de l'ExCom est qu'il est très difficile d'y faire la part entre le rationnel et le non-rationnel, entre le personnel et l'impersonnel, entre les dimensions officielles et officieuses, y compris en ce qui concerne les interactions entre Kennedy et Khrouchtchev. Ainsi, par exemple, le 26 octobre, Khrouchtchev fait parvenir un message personnel à Kennedy, authentifié par des éléments écrits de sa main, qui commence par « cher ami » et qui, en termes toujours personnels et amicaux, met l'accent sur le fait que lui et Kennedy ont en commun d'être très attentifs au bien-être du monde et que le fait d'avoir des idéologies différentes est une sorte de détail qui n'empêche pas que les capitalistes, aussi bien que les communistes, sont attachés à la paix. Continuant sur le même ton, Khrouchtchev met l'accent sur le fait que ni Kennedy ni lui-même ne sont fous ou suicidaires, et qu'ils veulent l'un et l'autre que leur compétition soit pacifique. Ce message contient en termes voilés des propositions assez vagues, laissant supposer la possibilité d'un échange avec les fusées américaines Jupiter implantées en Turquie. Le 27 octobre, le jour le plus long de la crise, les membres de l'Excom entreprennent d'interpréter ce message. Provient-il bien de Khrouchtchev en tant que premier secrétaire soviétique, c'est-à-dire toujours détenteur d'un pouvoir officiel, ou n'a-t-il pas plutôt été envoyé par Khrouchtchev, redevenu un simple individu, un homme comme les autres, plongé dans une situation étrange, au bord de l'incohérence, ayant plus ou moins perdu son pouvoir officiel ou même ayant été destitué par un coup d'État. En quelque sorte, un Khrouchtchev qui n'entend plus que lui-même serait devenu tout petit. Cela d'autant plus qu'au message personnel et en quelque sorte officieux, arrivé dans la nuit, a succédé un message plus dur que les analystes interprètent comme ayant été rédigé par le Politburo. Ce sont néanmoins les propositions voilées contenues dans le message personnel et son ton amical qui ouvriront la possibilité d'une désescalade et d'un dénouement sous la forme d'un accord non écrit et longtemps demeuré secret. L'enregistrement en dit également long sur les relations personnelles entre les membres du comité. Quand ils sont fatigués de parler de l'avenir du monde, il leur arrive de parler du prochain match de football. Je termine. Oui, Raymond Aron, dans le passage que j'ai cité en commençant, a sans doute raison. Il y a des circonstances dans lesquelles il est difficile de faire la part des relations entre personnes et les entités politiques, de distinguer ce qui revient à l'officiel et à l'officieux, au micro et au macro. C'est-à-dire aussi de déplacer l'analyse du pouvoir entre des échelles différentes sans en perdre le fil. Un problème qui n'est pas sans évoquer celui que posent les objets fractales dont les contours irréguliers et aléatoires donnent lieu à des mesures qui sont fonction de l'échelle adoptée. Sans doute l'un des plus épineux de ceux auxquels la sociologie contemporaine est confrontée. Merci.
Vous écoutez France Culture, le forum Le Monde, Le Mans, avec Luc Boltanski et Jean Birnbaum. Avant de rejoindre Nathalie Hennick, le temps est venu de poser une question à Luc Boltanski.
Bonjour, alors j'avais une question pour Monsieur Boltanski. C'était pourquoi vous n'avez pas parlé de lobby? Pourquoi vous avez parlé d'associations, de sectes, etc., mais pas de lobby?
En fait, j'ai pas pensé à les mettre dans la liste. Mais je pense que la question des lobbies est compliquée parce que selon les droits et les traditions juridiques et politiques de différents pays, ils ont une existence qui est complètement officieuse ou quasi officielle. Dans la tradition française, de la Révolution française, qui est largement rousseauiste, l'intérêt particulier et l'intérêt général... Dans le contrat social, l'intérêt général n'est pas l'accumulation, l'addition des intérêts particuliers. C'est ce qui est généré quand chaque citoyen, c'est très proche de Durkheim, c'est une espèce de métaphysique étrange, s'élève au-dessus de ses considérations d'intérêt pour regarder l'intérêt de l'ensemble. Et donc les personnes peuvent être dans deux états, dans un état particulier ou dans un état général. C'est pour ça que Rousseau était favorable à la démocratie directe. Il y a toujours chez lui ce qu'il appelle la pente à dégénérer des corps constitués élus. Et tout lien personnel dans une optique rousseauiste qui se fait par arrangement autour d'une mise en commun d'intérêts ou autour de la définition d'un intérêt commun est une brigue, c'est ce qu'il appelle une brigue, et donc va être contraire à la formation de l'intérêt général tel qu'il l'entend. C'est pour ce qui est une chose qui en est restée, je crois, en droit français, mais peut-être ma voisine va me dire que je me trompe, c'est que longtemps, en tout cas et encore aujourd'hui, le député n'est pas l'incarnation en quelque sorte de sa circonscription ou le représentant de sa circonscription, mais dès qu'il est élu, il représente l'ensemble de la nation. Alors que, pour autant que je sache, cette conception est différente dans les pays de tradition libérale, qui ont très vite conçu la possibilité de représentation d'intérêts dans l'État. En France, la représentation des intérêts dans l'État, au fond, elle arrive très très tard, par l'intermédiaire des syndicats, par l'intermédiaire du droit économique, par l'intermédiaire d'organismes comme le plan, etc. Ce qui fait que dans les pays où la représentation d'intérêts politiques des intérêts ne fait pas l'objet d'un interdit aussi fort que c'est le cas en France, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des lobbies. Les lobbies peuvent avoir pignon sur rue, comme vous savez, à Bruxelles, qui est largement sous la dépendance d'un droit anglo-saxon. Vous avez tout un ensemble de lobbies. Vous allez avoir le lobby du nucléaire, le lobby des vendeurs d'aspirine, le lobby. Et ces lobbies n'ont rien, comment dire, d'illégitime.
Je passe la parole maintenant à Nathalie Yenik, qui est aussi une figure très originale et très belle de la sociologie française, sociologue indépendante, qui a travaillé tour à tour d'ailleurs avec Bruno Latour, avec Luc Boltanski. Vous êtes en famille ici, au départ avec Bourdieu également, comme plusieurs de nos intervenants de ce forum, avant de vous éloigner de Bourdieu dans les années 80 et puis de construire votre propre parcours également, en travaillant notamment sur la figure de l'artiste. Hein. Nathalie Yenik travaille sur ce qu'elle appelle notamment la singularité artiste, c'est une jolie formule, la figure du peintre au XVIIe siècle, par exemple, ou alors les phénomènes d'admiration populaire, comme celui qui a entouré Van Gogh, puisque vous avez travaillé sur ce sujet. Et à travers ces enquêtes autour de l'art et de l'art populaire, des phénomènes d'admiration, vous creusez en permanence la question de l'individualisme dans nos sociétés contemporaines, non sans assumer une certaine solitude revendiquée. Il y a quelque chose de très beau et il y a un vrai panache dans la présence de Nathalie Yenik, qui a assumé donc de s'éloigner d'un certain nombre de clans, de laboratoires aussi, pour construire son parcours assez seul. Et vous avez eu cette expression, je trouve très belle, vous avez dit j'ai choisi de ne pas faire une carrière à disciple. Hein. Et je trouve que c'est une belle formule, c'est un choix, d'autres choix sont respectables aussi, mais j'avais retenu cette phrase. Et de fait, vous avez entretenu et vous entretenez un rapport de plus en plus ironique, distant, voire même carrément narquois à l'égard du monde universitaire, de ses codes, de ses conformismes. Vous avez, notamment en sociologie, vous avez publié un livre très rigolo qui a fait grincer beaucoup de dents, qui s'appelle « Bêtisier du sociologue ». C'est paru chez Clinsic en 2002. Et donc, vous avez une réflexion non seulement sur le pouvoir, et en particulier le pouvoir artistique, mais aussi sur le pouvoir qui est le vôtre, le pouvoir des intellectuels, ses lieux et ses limites. Nathalie Yenik, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez également la parole pour 20 minutes.
Merci de votre invitation. Je suis très contente de revenir ici. J'étais là il y a presque 20 ans. Voilà. Et je suis très contente d'être là à nouveau. Avant de commencer, je voulais juste saluer et remercier le magnifique travail des libraires qui ont fait un stand là-haut qui est remarquable. Et je le dis parce que on n'a peut-être pas assez conscience du fait que nos pensées passent beaucoup moins, comme on le croit, par la parole, ce qui est un petit peu marginal, hein, la parole comme on l'a ici. Elles passent surtout par l'écrit, notamment par la publication des articles et des livres. Et elles n'existeraient pas sans le travail de sélection des éditeurs et des critiques, et sans le travail de diffusion des distributeurs et surtout des libraires. Et je pense qu'il faut avoir conscience de notre solidarité comme maillon de la chaîne du livre, et vous, lecteurs, de votre rôle aussi dans cette chaîne du livre. C'est fondamental pour l'existence et la diffusion de la pensée. Donc voilà, le fait que des libraires soient là et qu'ils aient fait aussi bien leur travail est remarquable.
Et on peut la nommer, j'essaie de la nommer à chaque table ronde, c'est Valérie Taforo pour la librairie L'Herbe entre les dalles, et on la remercie effectivement beaucoup, beaucoup d'être avec nous. Vous avez raison de le souligner.
Alors, il y a quelques mois, j'ai été interviewée par une journaliste qui enquêtait sur le conspirationnisme, dont il a déjà été question aujourd'hui, donc cette épidémie de théorie du complot dont Internet est le bouillon de culture. Après quelques interrogations sur le comment et le pourquoi, est venue donc sa question finale: quels sont les intérêts financiers à développer des thèses conspirationnistes? Qui finance les conspirationnistes? Quels sont les grands groupes qui sont derrière ces théoriciens? Autrement dit, où est le pouvoir de faire croire au complot? Ainsi, l'enquêtrice dévoilait ingénument le fondement de son intérêt pour le phénomène qu'elle croyait étudier. Elle était elle-même victime de l'épidémie, persuadée que le phénomène en question ne pouvait être qu'une invention diabolique fomentée par des puissances occultes, intéressées et malfaisantes. D'où sa question: où se dissimule le pouvoir de faire croire aux naïfs que la réalité n'est pas celle qu'ils croient? Alors certes, se demander où est le pouvoir ne signifie pas céder au délire complotiste, et la question peut être légitime, à condition en tout cas d'être bien posée. Mais cette forme caricaturale de pensée critique qu'est le conspirationnisme doit nous inciter à nous méfier des impensés que peut recouvrir la question du pouvoir, y compris pour les esprits les mieux intentionnés, et à prendre garde à ce que la réflexion du chercheur, au lieu d'apporter des clarifications, ne crée un aveuglement supplémentaire. Et donc, avant de se précipiter pour tenter d'expliquer où est le pouvoir, le chercheur doit s'interroger sur les attendus implicites de la question posée, et notamment ici, sa connotation critique, qui sous-entend que tout pouvoir serait à dénoncer en tant que tel, quelle que soit sa nature et la façon dont il s'exerce. Certes, il existe de mauvais usages du pouvoir, qu'il est important de traquer, c'est même une obligation citoyenne. Mais le chercheur n'est pas rémunéré par la collectivité pour être un militant. Il est payé pour être un producteur et un transmetteur de savoir, de connaissances, d'intelligibilité. Or, la méfiance et la critique érigées en posture de principe sont devenues aujourd'hui, du moins à mon avis, des obstacles plutôt que des aides à la pensée, comme le prouve chaque jour cette affligeante épidémie de conspirationnisme. C'est pourquoi il vaut mieux commencer par s'interroger sur les termes mêmes dans lesquels on pense la question « où est le pouvoir ?» Et c'est ce que je vais vous proposer. Tout d'abord, en interrogeant les impensés du pronom interrogatif « où » lorsqu'il repose sur l'hypothèse de l'invisibilité. Puis, en interrogeant les impensés de l'article « le » qui tente à personnifier une notion, telle celle de pouvoir, lorsqu'elle est déclinée au singulier. Et enfin, en interrogeant les impensés du substantif même de pouvoir, lorsque c'est lui qui est choisi, plutôt que d'autres formes d'action sur le monde. Donc je commence par le « où » de la question « où est le pouvoir ?». Gaston Bachelard, grand épistémologue, historien des sciences, affirmait que, je le cite, « il n'y a de science que du caché ». Mais pour répondre de manière sinon scientifique, du moins rigoureuse, à une question portant sur du caché, il faut observer quelques précautions. La première précaution face à l'hypothèse du caché consiste à ne pas céder à une lecture paranoïaque en vertu de laquelle le monde serait rempli de dissimulations machiavéliques que la science du social, comme disait Pierre Bourdieu, aurait pour mission de traquer, de dévoiler, de démystifier, de démasquer, afin de désillusionner le pauvre quidam victime des funestes jeteurs de poudre aux yeux. Pour avoir été formé à la sociologie initialement à l'école de ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie critique, inspirée de Pierre Bourdieu, je sais combien cette interprétation paranoïaque du caché, qui pousse les sciences sociales vers la poursuite exclusive du lieu de la cachette, le « où », constitue un dévoiement assez fréquent et assez malheureux de l'hypothèse du caché. La seconde précaution à observer pour tirer un parti intelligent de l'affirmation de Bachelard consiste à accepter que le caché ne soit pas forcément le volontairement dissimulé, mais qu'il puisse relever aussi du non-conscient et plus encore de l'implicite. Car la plupart de nos actions sont fondées sur des déterminations qui demeurent largement non dites, non tant parce qu'elles auraient été sciemment occultées que parce que nous n'avons tout simplement pas besoin de les expliciter en situation ordinaire. Exactement pour la grammaire de la langue que nous partageons, ce n'est pas parce que cette grammaire a rarement besoin d'être explicitée qu'elle aurait été cachée par un mauvais génie. Bref, le caché n'est pas toujours caché comme on le croit. J'ai pu le comprendre en observant plusieurs commissions d'experts chargées de subventionner des auteurs ou des artistes, d'acheter des œuvres d'art ou de classer des monuments. Bien sûr, dans ces échanges entre experts, toutes les motivations n'étaient pas explicitées et il devait même exister dans certains de leurs choix des raisons non dites parce que non discibles, liées à des intérêts inavouables, c'est-à-dire à un mauvais usage de leur pouvoir. Mais j'ai vite réalisé que l'implicite provenait avant tout de la familiarité, de l'évidence que confère le partage des mêmes valeurs, des mêmes critères, des mêmes missions. De sorte qu'il me suffisait d'interroger après coup les membres de ces commissions pour obtenir sans problème l'explicitation de leurs raisons, lesquelles étaient non seulement avouables, mais même souvent tout à fait honorables. Autant dire que le cachet dans l'exercice du pouvoir n'est probablement qu'une petite partie du problème qui se pose au sociologue lorsqu'il ne peut pas s'en tenir à l'observation de ce qui se dit, lorsqu'il ne peut pas se contenter de s'appuyer sur les capacités de réflexivité spontanée des acteurs, parce que ces capacités sont trop limitées pour faire émerger directement l'implicite. Mais c'est en même temps une grande chance dans l'exercice de notre métier, puisque nous pouvons travailler utilement en explicitant l'implicite et en lui donnant du sens, sans vivre pour autant dans la suspicion permanente envers ce qu'on nous cacherait. J'en viens maintenant à l'article « le » dans la question « Où est le pouvoir ?». Il ne suffit pas toutefois de relativiser l'idée d'une dissimulation volontaire et mal intentionnée du pouvoir pour donner une réponse utile à la question du lieu où il s'exerce. Deux conditions sont encore nécessaires qui tiennent l'une et l'autre à l'exigence de pluralité. Une pluralité qui, en matière de sciences humaines et sociales, devrait être la règle guidant l'interprétation plutôt que l'exception, et le signe d'une pensée aboutie plutôt que d'un raisonnement inconsistant, tant il est vrai que l'expérience humaine est foncièrement plurielle. La première pluralité, donc, à prendre en compte, est la pluralité des lieux ou des instances d'exercice du pouvoir. C'est une réalité bien connue, puisque on numérote même les pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, et en quatrième position, le pouvoir médiatique, le fameux quatrième pouvoir, voire, selon certains, le cinquième que serait le pouvoir de l'opinion publique, ou le sixième que serait le pouvoir financier. Voilà une première décomposition de la question qui permet de travailler un peu plus intelligemment qu'en s'en tenant au singulier de l'article défini devant le mot « pouvoir ». La question devient « Où sont les pouvoirs ?» et la liste des réponses possibles commence à s'allonger, tandis que le réductionnisme critique s'éloigne un peu à l'horizon. Cette petite opération de pluralisation qui permet de passer du singulier au pluriel de l'article défini paraît si simple et évidente qu'on peut se demander pourquoi elle ne nous vient pas plus systématiquement à l'esprit. La raison, me semble-t-il, est que parler du pouvoir au singulier permet de traiter ce qui n'est qu'une notion recouvrant un ensemble de pratiques comme s'il s'agissait d'une entité réelle, dotée de contours bien définis et surtout d'intentions susceptibles d'en expliquer les actions. En d'autres termes, le pouvoir ressemble fort à une personne, ce qui permet de la qualifier aisément, de lui attribuer des motivations et des intérêts, et de projeter sur lui, cette personne que serait le pouvoir, tout le mal qu'il est si bon de penser à propos des méchants. C'est ce que j'appelle l'anthropomorphisme conceptuel, c'est-à-dire qu'on traite un concept, ou plutôt ici une simple notion, comme si elle était une personne. D'où quelques raccourcis, assez satisfaisants lorsqu'on ne se donne pour objectif que de dénoncer un pouvoir forcément malfaisant, une domination forcément illégitime, mais qui constituent de solides empêcheurs de penser pour tout esprit attaché à comprendre le monde avant d'en faire le procès. Là encore, l'expérience du terrain suffit à dégonfler bien des baudruches conceptuelles. Je l'ai constaté par exemple en observant le travail des chercheurs de l'inventaire du patrimoine, chargés de signaler ou d'étudier des bâtiments ou des objets dotés d'un intérêt patrimonial. Leur pouvoir est d'un certain point de vue immense, car ce sont eux qui décident si tel bâtiment sombrera dans l'oubli ou s'il aura une chance d'entrer dans la chaîne patrimoniale. Et en même temps, c'est un pouvoir d'une complexité et d'une fragilité extrême, notamment en raison de la multiplicité des instances et des acteurs intervenant dans les prises de décision. Non seulement les chercheurs eux-mêmes, mais leurs supérieurs hiérarchiques, leurs formateurs, les auteurs des listes, répertoires de thèmes, logiciels, études sur lesquelles ils s'appuient, les représentants des collectivités locales dont ils dépendent, les administrateurs qui les gèrent à la DRAC, à la Direction du patrimoine, au ministère de la Culture, etc. Et je ne parle même pas des pouvoirs contraires auxquels il se heurte parfois, le pouvoir des propriétaires récalcitrants, des photographes qui n'en font qu'à leur tête, des ronces qui bloquent l'accès au bâtiment, et même de la pluie qui tremble leur cahier de notes. C'est de tous ces pouvoirs, multiples et contradictoires, qu'est fait le pouvoir de patrimonialiser. Autant dire qu'à l'épreuve du terrain d'enquête, le singulier du pouvoir a vite fait de voler en éclats. Cette pluralisation des instances possède deux conséquences intéressantes. La première est que, en dépersonnifiant l'objet étudié, le pouvoir en l'occurrence, elle pousse à observer les actions plutôt qu'à chercher à identifier les personnes. La question n'est plus tant qui a le pouvoir que comment s'exerce-t-il ? C'est là le principe de ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie pragmatique, attachée à l'observation des actions concrètes en situation. La seconde conséquence de cette pluralisation du pouvoir est que, à l'épreuve de ces observations sur le terrain, le pouvoir apparaît moins comme une cause que comme une conséquence. Ce n'est plus une instance quasi transcendante, une entité déjà là qui imposerait ses volontés, mais c'est plutôt la résultante d'un ensemble à la fois diffus et structuré d'opérations qui produisent des effets. Pour prendre un exemple que je connais un peu, celui du ministère de la Culture, l'observation de son fonctionnement montre que son action repose bien sûr sur son autorité de principe en tant qu'institution, mais aussi que cette action n'existe effectivement que grâce à l'agrégation d'un très grand nombre d'acteurs, d'opérations, de commissions, de coordinations, etc., que ces différents éléments de l'action ministérielle sont soumis à de multiples contraintes, règles de droit, règlements administratifs, cadres hiérarchiques, etc. Et que, au final, c'est la résultante du travail de ces multiples instances et de ces tout aussi multiples contraintes qui fait ce qu'on appelle le pouvoir du ministère. Dans cette perspective, que l'on peut qualifier encore une fois de pragmatique, nous voilà débarrassés de la tentation un rien paranoïaque de chercher le pouvoir comme on chercherait la cause d'un phénomène. En retraçant les pouvoirs et en restituant les logiques, l'on voit s'opérer les conséquences des actions observées, et c'est là que l'on voit vraiment les pouvoirs à l'œuvre. Mais l'on peut aller un peu plus loin encore dans le souci de la pluralité. Il suffit pour cela de déplacer la pluralité de l'article « le pouvoir » au substantif en pluralisant le mot même de « pouvoir », c'est-à-dire en cherchant ses équivalents, et c'est ce que je vais vous proposer pour terminer. Il n'aura probablement échappé à personne ici que le mot même de « pouvoir », clé de voûte du mode de pensée hérité de Michel Foucault, contient une connotation critique, de même que le mot de « domination » qui est son équivalent dans le mode de pensée hérité de Pierre Bourdieu. Même si l'intention de celui qui parle de pouvoir ou de domination n'est pas forcément critique et peut simplement relever de la volonté de décrire, d'analyser, d'expliquer, de comprendre, il se trouve que compte tenu de l'ambiance culturelle dans laquelle nous baignons tous aujourd'hui, ce sont des termes qui tendent à être entendus dans une perspective critique. Or, la posture critique est aujourd'hui, de mon point de vue, le principal obstacle à une véritable pensée du monde social, pour peu du moins qu'on ne réduise pas la pensée à l'opinion et l'opinion à la dénonciation. C'est pourquoi je me suis demandé comment contourner cet obstacle, autrement dit concrètement, comment trouver d'autres termes équivalents à celui de pouvoir qui nous permettraient d'éviter de retomber d'une sociologie de la critique à une sociologie critique, comme aurait pu dire mon collègue à cette table, Luc Boltanski. Prenons tout d'abord cette forme particulière du pouvoir qu'est la violence, autrement dit le pouvoir exercé par la force physique. Le mot est, comme la chose, unilatéralement négatif. Face à l'usage des armes, des coups, voire simplement de la menace, qui ne préférerait ce que le grand sociologue allemand Max Weber nommait la monopolisation de la violence par l'État, avec ses lois, ses règles et ses distinctions instituées entre le vote de la loi, son exécution et sa sanction ? À la barbarie des hordes de guerriers, qui ne préférerait ce que cet autre grand sociologue allemand qu'était Norbert Elias nomma le processus de civilisation par la monopolisation étatique de l'exercice de la violence et de la levée de l'impôt, qui permit la pacification de l'aristocratie guerrière et l'invention de la civilité. À la lumière de cette comparaison avec la violence ou la force brute, la notion de pouvoir et son corollaire qu'est l'état de droit apparaît comme un évident progrès, et l'actualité internationale ne cesse malheureusement de nous en fournir à contrario la vérification. Autant dire que l'on ne peut penser intelligemment la question des pouvoirs sans penser en même temps celle des contre-pouvoirs. Au plus loin, apparemment, de la violence est une forme de pouvoir à laquelle on ne pense pas facilement. C'est le pouvoir de l'emprise qui se déploie à l'aise dans la vie familiale et conjugale. Nos conversations, nos confidences, nos fictions même sont pleines d'histoires de couples étouffants dans des rapports d'emprise, d'enfants persécutés par l'emprise maternelle. Quoique pas assez étudiée par la psychologie et la psychanalyse, l'emprise est une forme très banale et très pernicieuse de pouvoir, face à laquelle les contre-pouvoirs paraissent souvent inaccessibles. Ils existent pourtant, et ils ne sont pas nuls, ce sont les mots. Face à une situation d'emprise, seuls les mots pour le dire, pour citer le livre fameux de Marie Cardinal, ont le pouvoir de dénouer le lien, et qui se plaindrait de ce pouvoir symbolique opposé au pouvoir psychique de l'emprise. Un autre équivalent possible du pouvoir est la contrainte, qui n'est ni la violence ni l'emprise. Lorsqu'elle ne passe pas par la violence physique, elle relève par excellence du domaine de la loi qui oblige tout un chacun. Or, nul n'est au-dessus des lois. N'est-ce pas là l'assurance que la contrainte légale est une forme parfaitement démocratique d'exercice du pouvoir ? Sans contrainte, sans régulation, sans règlement, sans législation, nous vivrions, disait Karl Marx, comme le renard libre dans le poulailler libre, c'est-à-dire sous la loi du plus fort. Autant dire que le pouvoir de contraindre est le plus démocratique et le plus juste des pouvoirs. L'on peut aussi envisager le pouvoir sous son autre forme qu'est la puissance. Prise dans son sens physique, la puissance peut équivaloir négativement à la violence, mais elle peut aussi être vue positivement comme l'exercice d'une force supérieure qui attire l'admiration. On en voit l'exemple chaque jour dans les stades. La puissance du sportif, du champion, de l'athlète, s'exerce à la fois sur son propre corps, sur les objets et sur ses partenaires et adversaires. Or, nul ne s'en plaint, bien au contraire. Qui songerait à dénoncer ce pouvoir particulier qu'est la puissance de jeu d'un grand footballeur ? Dans le domaine du savoir, qu'il s'agisse de pédagogie ou de science, le pouvoir se nomme plutôt autorité. L'autorité du maître, l'autorité du chercheur. C'est le pouvoir de faire accepter sans réticence la supériorité de l'enseignant sur l'enseigné, du savant sur le profane, au nom de la dissymétrie de compétences entre celui qui possède un certain savoir et celui qui ne le possède pas ou pas encore. Or là aussi, même si l'autorité a été contestée dans la génération libertaire de l'après-68, elle n'en reste pas moins une valeur dont beaucoup regrettent plutôt qu'elle ne soit pas assez respectée. Lorsqu'il a nom autorité, le pouvoir est également une valeur sûre. Passons au domaine artistique. On y parlera du pouvoir plutôt en termes d'influence. Le pouvoir de l'artiste, de l'écrivain, du musicien, c'est non seulement la capacité de faire éprouver des émotions aux spectateurs, aux lecteurs, aux auditeurs, mais c'est aussi celle d'agir sur les autres créateurs en orientant leur création ou leur interprétation, y compris souvent de manière posthume. Et là encore, aucun artiste ne se plaindra d'avoir été influencé par un maître. Il se félicitera plutôt d'avoir eu la chance de bénéficier de son pouvoir d'influence. C'est souvent chez les artistes, mais aussi chez les prophètes et chez les chefs, que l'on rencontre une autre forme de pouvoir qui a nom fascination. Qu'elle repose sur la beauté, sur le talent ou sur le charisme, la fascination est un pouvoir de capter les regards d'autrui, d'attirer et de retenir l'attention, de susciter l'admiration et l'adhésion. Lorsqu'il se nomme charisme, le pouvoir est toujours positif, nul ne songerait à le dénoncer. Au contraire même, c'est son absence qui est problématique. Avec la fascination, voilà donc encore un pouvoir qui fait l'unanimité pour lui. Je terminerai avec une dernière forme de pouvoir que l'on oublie trop. Il s'agit du pouvoir sur soi-même, autrement dit l'autonomie. Il en a été rapidement question ce matin. Être en mesure de faire ce que l'on veut, de choisir son destin, d'épouser qui l'on aime, d'endosser la carrière de son choix, voilà qui n'est pas donné à tout le monde et surtout qui ne l'a pas été, les femmes ayant été les premières victimes du manque d'autonomie. Certes, l'on a vite fait de souligner que ces femmes peuvent régner en souveraine sur leur famille par la séduction, l'autorité, la contrainte ou l'emprise. Mais l'on oublie ce faisant que longtemps, la mère de famille toute puissance exerçait sa puissance sur tout son entourage, sauf sur elle-même. Et que la conquête de ce pouvoir particulier qu'est l'autonomie a été l'une des plus grandes révolutions qu'ait connue l'histoire des rapports entre les sexes dans le monde occidental. Alors, que conclure de cet exercice d'extension du domaine du pouvoir, consistant à se demander systématiquement pouvoir de quoi, pouvoir de qui, pouvoir sur qui ? Je vous propose en guise de conclusion trois remarques rapides. La première remarque est qu'en étendant la notion de pouvoir à d'autres domaines qu'à ceux où l'on tente à le cantonner, l'État, la finance, la presse, l'on met en évidence le vécu pas seulement négatif, mais aussi positif de chacune des formes de pouvoir entendues comme capacité à agir sur les objets du monde, sur soi-même ou sur autrui. L'on passe ainsi de la posture critique, à laquelle nous ont habitués les théories foucauldiennes du pouvoir ou bourdieusiennes de la domination, à une analyse raisonnée des avantages et des inconvénients des différents pouvoirs. La deuxième remarque est que pour intégrer dans l'analyse la façon dont ces pouvoirs sont vécus et perçus par les acteurs, il faut sortir d'une approche purement explicative, qui ne s'intéresse qu'aux causes et aux déterminations éventuellement cachées, pour s'installer dans une posture compréhensive qui se donne pour objectif de rendre perceptibles et analysables les raisons des acteurs, leurs motivations, leurs émotions, leurs valeurs. L'on peut ainsi donner sens à ce phénomène parfois étrange qu'est l'acceptation du pouvoir ou la servitude volontaire, pour reprendre les termes de la Boétie, sans l'imputer à une aliénation ou à la violence symbolique chère à Bourdieu, violence symbolique étant à mon avis un concept aussi intellectuellement frauduleux que politiquement ravageur. Car cette acceptation du pouvoir peut se comprendre très simplement dès lors que l'on prend au sérieux une réalité aisément observable et que nous connaissons tous, à savoir la capacité des acteurs à accepter les hiérarchies, donc les inégalités, lorsqu'elles sont justifiées et équitables, leur désir de déléguer leur pouvoir à autrui lorsqu'ils n'ont pas envie de l'exercer ou s'en sentent incapables, ou encore leur besoin d'admirer plutôt que d'envier lorsqu'ils sont face à un individu doté de mérites qu'ils n'ont pas ou d'une grâce qui n'est pas échue à tout le monde. Mais pour décrire ces réalités dans toute leur complexité et les comprendre dans leur logique subtile, peut-être faut-il remplacer la question « où est le pouvoir ?» par « comment sont les pouvoirs ?» Autrement dit, observer et analyser les façons dont s'exercent les différents pouvoirs sous toutes leurs formes. Alors, le journaliste, le militant, le citoyen, y compris le militant et le citoyen qui veillent en chaque chercheur, pourront s'en emparer pour exercer, à bon escient, leur droit de regard et éventuellement de critique. C'était donc ma troisième et dernière remarque. Je vous remercie.
C'était le forum Le Monde, Le Mans, un débat animé par Jean Birnbaum avec Luc Boltanski et Nathalie Hennick. Prise de son, Jean-Marie Porcher, réalisation, François Connac.